Allons-y pour cette nouvelle table ronde. Merci d'abord à tous d'être là aussi nombreux pour cette table ronde sur les cerveaux positroniques d'Isaac Asimov. Commencez, avant d'entrer dans le vif du sujet, par vous présenter nos panélistes de cette heure. Tout d'abord, en face de moi, il y a Rodolphe Gélin, qui est le spécialiste technique de cette table ronde, qui a longtemps travaillé, je crois, sur les robots au CEA, et qui est maintenant directeur de la recherche à la société Aldébaran, et qui est, je crois, le responsable, ou le père, je ne sais pas comment il faut dire, du petit robot d'abord Nao, que les habitués des Utopiales connaissent bien, qui est intervenu pendant plusieurs années, qui l'an dernier nous a donné une danse avec tous ses cousins. Et je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que cette année, c'est le grand frère ou le petit frère de Nao qui est là avec toi, donc Roméo. Donc j'imagine que tu auras l'occasion d'en parler dans beaucoup d'autres tables rondes, donc je ne vais pas parler spécialement de Roméo aujourd'hui. Mais là, on a donc le scientifique, le technicien de cette table ronde. À côté de lui, Laurent Genefort, que vous connaissez forcément. Je dirais que si vous ne connaissez pas Laurent Genefort, c'est que vous avez raté ce qui s'est passé dans les 30 dernières années de science-fiction française. C'est un très vieux monsieur qui publie de la SF depuis au moins une trentaine d'années, avec une quarantaine de romans à son actif. Donc, je ne sais pas si c'est la peine de le présenter beaucoup plus. Je dirais simplement que pour ceux qui n'ont jamais rien lu de Laurent, à la sortie de la table ronde, précipitez-vous à la librairie. Vous avez, par exemple, Omal, qui est l'un de ses grands classiques, qui est une excellente porte d'entrée vers l'œuvre de Laurent. Et puis, on en rediscute après. À côté de Laurent, vous avez Philippe Curval, qui, à l'époque où Laurent et moi étions de très jeunes et fringants jeunes amateurs de science-fiction, était déjà un grand classique. Si je ne m'abuse, alors encore, ça serait, il y a quelque chose d'absurde à présenter Philippe Curval à un public de science-fiction. Vous connaissez tous forcément des titres comme Le ressac de l'espace ou cette chère humanité, et c'est pas par hasard que je parle de classiques, ce sont effectivement des grands classiques de la SF française. Le ressac de l'espace, c'était 62, je crois. Donc, ça fait maintenant plus de 50 ans que Philippe est à la pointe de la science-fiction française. Moins productif que Laurent, je ne sais pas combien tu as publié de romans, mais plusieurs dizaines en tout cas aussi. 40 aussi, bon, mais 40 en 50 ans contre 40 en 30 ans. Laurent gagne au point. Et donc, dernier panéliste, Anthony Valla, qui nous vient de Lausanne, qui lui vient plutôt des sciences humaines. Il enseigne la philosophie, il enseigne la sociologie, il a enseigné le français aussi, je crois. Qui est un spécialiste d'Asimov, qui a publié récemment un essai sur Asimov, en l'occurrence principalement sur le cycle de fondation. Vous voyez la petite carte devant lui. Son dernier essai a été publié essentiellement en ligne, je crois, donc sous forme numérique. Mais les éditions ActuSF, dont le stand est juste à la sortie à gauche, inaugurent une façon assez originale de promouvoir ce roman. Vous avez la possibilité d'acquérir et éventuellement de faire signer par son auteur une carte postale avec la trombine d'Asimov et qui vous donne tous les codes d'accès qui vous permettent de récupérer le fichier numérique afférent. Est-ce qu'il serait possible de monter un petit peu le son ici, soit de le diminuer derrière? Ok. Pour revenir, donc pour entrer dans le vif du sujet, on nous a proposé comme thème de parler des cerveaux positroniques d'Isaac Asimov, se demander si c'était précurseur, si on pouvait parler de science-fiction ou d'anticipation. Connaissant bien le directeur artistique des Utopiales, je soupçonne un brin de perversité dans le choix de ce titre, parce que essentiellement, quand on regarde les choses de près, les cerveaux positroniques, c'est une expression que tout le monde connaît et dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça recouvre. Asimov, qui est par ailleurs, qui est bien sûr un immense écrivain de science-fiction, mais qui est aussi un immense vulgarisateur, qui a publié littéralement des centaines de livres de vulgarisation, qui sait parfaitement expliquer à un très grand public tous les détails de données techniques quand il en a envie, ne dit pas un mot sur ce que peut être un cerveau positronique. Or, c'est un grand classique chez Asimov. Il lui arrive très souvent quand il parle d'un sujet, quand il a envie de parler d'un sujet, et d'utiliser autre chose dans son roman, d'introduire des termes comme ça. Je pense par exemple à l'hyperespace, qui est aussi un terme qui a fait fortune, que tout le monde connaît. L'hyperespace, c'est ce que vous traversez quand vous voulez aller d'un point à un autre dans l'espace, quasiment instantanément. Et c'est la façon d'Isaac Asimov de nous dire, me posez pas trop de questions sur la façon dont est construit le voyage spatial dans mon univers. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter ce qui se passe sur une planète et ce qui se passe sur une autre planète. Entre les deux, c'est pas mon problème. Si vous voulez de la hard science, allez voir Clark ou allez voir Heinlein. Mais ceux qui ne veulent pas jouer avec moi n'ont pas besoin de me lire. Puis les autres acceptent le terme d'hyperespace et ça ira bien comme ça. Je soupçonne qu'on a un peu le même genre de choses pour le cerveau positronique. On a des robots fascinants. Le cycle des robots d'Asimov est évidemment, là encore, l'un des très très grands classiques de la science-fiction. Le rapport de ces robots à l'homme, à la société, aux sciences sociales est complètement fascinant. Le rapport de ces robots à la technique est, en fait, beaucoup moins, à peine esquissé, beaucoup moins profond. J'ai envie de me tourner d'abord vers notre spécialiste pour voir si tu confirmes cette intuition, si effectivement il y a, de ton point de vue, un quelconque héritage technique des cerveaux positroniques d'Asimov dans la robotique d'aujourd'hui, ou si c'est simplement un terme qui est là pour faire joli.
Je dis souvent que les robots d'Asimov n'ont aucun intérêt d'un point de vue robotique parce qu'effectivement, ils n'apprennent pas grand-chose. Ils n'apprennent pas grand-chose techniquement, c'est sûr. Alors, ils donnent envie de faire des robots. Moi, si j'ai fait des robots, c'est aussi parce que j'ai lu ça. Des robots qui sont proches des gens, des robots qui discutent avec les gens, donc qui partagent notre vie quotidienne. Donc ça, c'est très bien vu. En revanche, voilà, les lois de la robotique qui sont implémentées dans le cerveau positronique, ça ne nous aide pas beaucoup à avancer pour rendre des services aujourd'hui. En plus, on s'aperçoit que même si on arrivait à les implémenter, ça ne marche pas bien. Donc vraiment, il ne nous est pas d'une très grande aide, et si ce n'est une inspiration sur les usages, sur les problèmes qu'on pourrait peut-être un jour rencontrer si nos robots sont très très intelligents. Et voilà, donc moi je constate, pour moi je vois surtout les lois de la robotique comme une réflexion sur la vie en société, sur les relations des hommes entre les hommes, et souvent on fait ça, quand on fait des robotiques, des robots humanoïdes, c'est d'un point de vue mécanique, vérifier, je disais ça ce matin, désolé pour ceux qui étaient déjà là, c'est pour vérifier comment marche l'homme, et donc on fabrique un robot avec deux jambes pour vérifier que les algos de marche, ils reproduisent bien la marche de l'homme. Et de la même façon, un peu ce qu'a fait Asimov, c'est si on pouvait donner des lois un robot et que le robot suivait parfaitement les lois, est-ce que ça marcherait? Est-ce que la société marcherait mieux? Voilà, parce qu'on se dit toujours, si ça marche pas les lois chez l'homme, c'est parce qu'il est toujours, il est un petit peu limite. Voilà, et là, il démontre que même si on suivait respectivement, scrupuleusement les lois, parce que le robot, il fait pas autre chose que ce qu'on lui dit de faire, et ben, même comme ça marcherait pas très bien. Donc voilà, pour moi, c'est surtout une réflexion sur ce sujet-là. Et aussi, nous, ça nous dégonfle un peu nos ambitions de dire, voilà, allez faire des robots très très intelligents. Même si on y arrivait, ça serait pas aussi simple que ça. Donc, essayons de faire avec les maigres capacités qu'on peut aujourd'hui donner au cerveau de nos robots.
Bon, ce qui semble corroborer effectivement cette hypothèse que le sujet de cette table ronde n'est pas tant les cerveaux positroniques que nos rapports avec les robots. Désolé pour ceux qui sont venus pour ça, vous n'apprendrez pas aujourd'hui comment fonctionnent les robots d'Asimov.
Si je le sais, je ne le dirai pas parce qu'on est en train de mettre des brevets sur les cerveaux positroniques.
Donc rendez-vous l'an prochain pour des conférences de pure vulgarisation sur la question. Donc ça justifie aussi probablement le choix des Utopiales d'avoir proposé une table ronde majoritairement littéraire ou sciences humaines. Du coup, je me tourne vers nos auteurs. S'il ne s'agissait pas de hard science, s'il ne s'agissait pas de nous parler de cerveau positronique, qu'est-ce qu'Asimov pouvait bien essayer de faire quand il insistait autant sur ce terme ou quand il nous parlait de cerveau positronique? Laurent?
Le côté purement positronique, oui, c'était un mot. Le positron avait été découvert quelques années avant, en fait. C'est simplement ça. Hein. C'était un peu comme, je sais pas, les nanotechnologies maintenant. Il n'y a pas un auteur qui sait vraiment ce que c'est. Mais, enfin, je veux dire, quelle technologie réelle ça met en œuvre. Mais voilà, on sait ce que ça fait et c'est ce qui compte, en fait. C'est comme, c'est comme tu disais, l'hyperespace. C'est l'important, c'est que c'est pas comment ça marche, c'est que que le vaisseau arrive à destination finalement. Et le cerveau positronique. En même temps, je trouve qu'il a eu, je sais pas si c'est du pif, mais en tout cas, de relier comme ça l'infiniment petit et la robotique et l'informatique, finalement, c'était visionnaire finalement, puisque dès les années 50, on s'est lancé dans la miniaturisation pour notamment la conquête lunaire. Et là, maintenant, ça a été réactivé avec les ordinateurs, enfin, avec des avancées sur un hypothétique ordinateur quantique. Donc, ce lien entre infiniment petit et puis cerveau, enfin et puis cerveau électronique. C'est quelque chose qui est pas, enfin qui est toujours d'actualité, on peut dire. Mais je rebondissais sur ce que tu disais. Moi, c'est surtout, moi, je trouve que l'apport d'Asimov et des auteurs de SF, vraiment du début des années 40, c'est d'avoir donné un champ imaginaire à la robotique. C'est complètement emblématique qu'un des premiers robots japonais se soit appelé Asimo et qu'il y ait eu plein de références et que la forme même des robots rappelle les robots japonais de maintenant, enfin, soit issus du manga et de la SF japonaise. Donc je trouve que peut-être que l'apport technique est nul, enfin, et correspond à rien clairement. En revanche, le champ imaginaire, il est là, quoi. Il est immense et même sur quelque chose d'aussi vraiment purement technique que la robotique, on s'aperçoit que même là, il y a une recherche d'imaginaire. On cherche à s'appuyer sur quelque chose qui appartient à une culture. Alors, il se trouve que c'est la SF parce qu'il n'y a que la SF qui l'a traité, mais voilà quoi. C'est finalement l'apport, il est culturel avant d'être technique, parce que c'est pas le boulot des auteurs de SF, il est certainement pas d'être technique en fait.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé personnellement d'utiliser ce genre d'artifice pour d'illusionnisme, pour parler d'un sujet sans en parler vraiment?
Ouais. Alors, c'est vrai que la SF que je pratique, elle est un peu aux limites de ce qu'on appelle de l'art science, ou en tout cas, enfin, disons, j'essaie de pas violer trop de lois fondamentales sur la conservation de l'énergie, ce genre de choses. Donc d'être réaliste à un niveau énergétique, on va dire. Maintenant, ça m'empêche pas de faire appel à ce qu'on appelle la super science, c'est-à-dire vraiment une sorte comme ça, quelque chose qui est juste au-delà de notre horizon technologique. Donc un matériau qui va résister à ma sœur de Dyson, par exemple, elle est faite d'un matériau qui est impossible, enfin, je veux dire, qui encaisse des contraintes impossibles avec les matériaux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc alors on se permet de le faire parce qu'on n'est pas soumis au rasoir d'Occam justement de la science, hein, et on peut justement défoncer ce mur du réalisme, enfin de la réalité, on va dire. Voilà, le tout après c'est d'être on est un peu sur le fil du rasoir. Après on peut pas se permettre de franchir un certain niveau d'irréalisme quand on fait une ESF un peu art science où l'immersion elle est aussi basée sur l'immersion dans la fiction, elle est aussi basée sur le sentiment que ça pourrait arriver si on met de côté, si on balaie sous le tapis deux ou trois lois fondamentales, quoi. Voilà.
Philippe, je suis tenté de te poser la même question qu'essayait de faire Asimov quand il nous parlait de robots.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'avantage de lire, bien avant Asimov, Karel Čapek. Et pour moi, le robot, de départ, c'était celui de RUR. C'était un robot qui a été utilisé par les auteurs de pré-science-fiction pendant longtemps, puisque le robot de Karel Čapek remplaçait complètement l'homme, non ? C'était un véritable robot. Il remplaçait complètement l'homme petit à petit dans toutes ses activités. Et finalement, les littérateurs de l'époque ont fait du robot une sorte de monstre épouvantable, puisque finalement, il supprimait l'avenir de l'homme, puisqu'il le remplaçait dans tous les domaines. Et c'était les robots totalement privés de sentiments. C'était des robots purement fonctionnels. Donc,
Philippe, est-ce que tu peux parler un peu plus près de ton micro,
oui, s'il te plaît ? Après, j'ai découvert donc Asimov avec ses fameuses lois qui mettaient en péril donc cette vision du robot absolument destructeur de l'humanité, puisqu'il l'asservissait à ces fameuses lois qui le rendaient complètement disponible à l'être humain et lui permettait d'avoir des échanges intéressants entre eux. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas un grand admirateur d'Asimov, et je suis content chaque fois que des auteurs qui ont succédé à Asimov ont réussi à détourner complètement ces fameuses trois lois. En particulier, d'ailleurs, il y a la fameuse première loi, où tout le monde raconte que pendant la projection de 2001, Odyssée de l'espace, quand HAL se révolte, Asimov, voyant la séance, écriait « C'est épouvantable, il a violé la première loi ». Donc déjà, là, la première loi a été violée, mais des tas d'autres auteurs comme Shakley, qui se sont amusés avec les robots comme des vieilles boîtes de conserve, ont trouvé que ces fameux robots métalliques comme ça n'étaient pas parfaitement idéaux pour répondre véritablement aux besoins de l'être humain. Par la suite, d'ailleurs, se sont développés parallèlement, parce que finalement, qu'est-ce qui distingue ? Il y a des distinctions entre le cyborg, le robot et l'androïde, mais finalement, à partir du moment où on représente l'être humain sous une forme de ferraille ou sous une forme plus ou moins plastique, on arrive toujours à peu près au même résultat des rapports entre l'homme et un être artificiel. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, je vous parlais donc de Karel Čapek qui montrait que l'humanité était totalement détruite par les robots. Moi, personnellement, il y a 5 ans, je me suis dit, c'est curieux, on ne parle absolument plus de robots dans la science-fiction. Et j'ai écrit un roman qui s'appelle Lothar Blues, en ayant complètement oublié ce qu'avait écrit Čapek à l'époque, parce que je ne l'avais pas lu depuis 1900, je ne sais pas combien. Et finalement, donc j'ai inventé une société, si vous voulez, du futur, qui est dans la lignée de mes livres, qui s'appelle L'Europe après la pluie, c'est-à-dire la création du Marcom, le marché commun, qui s'est devenu une énorme entité et qui s'est refermé sur le monde. Donc j'ai écrit 4 volumes sur le sujet, et donc le dernier s'appelle Lothar Blues, et prend justement en compte ces rapports de l'homme avec le robot. Il s'est passé donc un moment où vraiment l'humanité était en perdition, et pour pouvoir rattraper cette humanité en perdition, la solution a été d'abord de trouver un moyen d'éduquer les enfants qui n'étaient plus éduqués par leurs parents. Et donc ils ont inventé une espèce de robot extrêmement léger qui enseignait aux enfants toute la vie, toute l'éducation qui existait auparavant. Et puis après, donc, on a fait aussi des robots qui étaient des quasi, qui eux-mêmes remplaçaient l'homme dans différentes fonctions. Donc finalement, après avoir écrit tout ça, je me suis rendu compte que j'arrivais exactement à la même situation que Čapek, et que petit à petit, l'être humain était non pas dépossédé de la terre et de l'humanité, puisqu'ils avaient toutes les assurances sociales, toute la possibilité de vivre, ils avaient des loisirs. Donc ils étaient heureux, mais sans rien faire. Et finalement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que par un cheminement totalement différent de celui de Čapek, j'ai retrouvé exactement le même problème entre le rapport et l'homme et le robot. Sauf que j'ai inventé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'inconscient des robots. Et à partir de là, le roman change complètement de perspective.
Anthony, Rodolphe nous parlait tout à l'heure, suggérait en fait le fait que les robots d'Asimov et le cerveau positronique pouvaient surtout servir de base à des expériences de pensée sur ce que pourraient être les robots du futur ou les comportements humains. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu comprends l'intention d'Asimov dans cette œuvre-là ?
Alors, moi j'ai relu récemment l'introduction que Asimov fait à son grand recueil de nouvelles sur les robots, où il explique qu'au début, son idée était avant que lui écrive justement sur les robots, il avait l'impression que les robots étaient un peu dans le même paradigme, la même perspective que Frankenstein, que c'était une sorte de créature produite par l'homme et qui finalement se retourne contre son créateur et qui plus ou moins le détruit, l'effraie, enfin, et qui pose un certain nombre de problèmes. Et ce que Asimov, enfin, ce qui explique ce qu'il a voulu faire, c'était d'enlever cette dimension-là, ce problème du complexe de Frankenstein du robot, pour en faire quelque chose comme une sorte d'outil ou de machine ou de quelque chose de fonctionnel. Voilà. Et que c'était les 3 lois qui permettaient justement d'éliminer ce problème de la révolte des robots contre l'homme, de ce problème de Frankenstein, justement à cause des 3 lois qui pouvaient brider le robot et donc la servir à l'homme. Bon, plus tard dans ces nouvelles, on voit que cette thématique des humains qui peuvent se sentir inférieurs aux robots et qui du coup ne le veulent pas dans leur société, ou tous ces problèmes d'enfreindre la première loi sont souvent mis en scène dans ces nouvelles. Mais je crois qu'effectivement ce qu'a amené Asimov, c'était de pouvoir penser le robot comme un objet technique et non plus comme un objet disons métaphysique, de créature engendrée par l'homme. Voilà, je pense que c'était au départ son projet.
Merci. Je vais revenir à Rodolphe. Pour te faire remonter essentiellement ce que vient de suggérer Philippe, qui nous parlait d'inconscient des robots, on ne sait pas donc, il me semble qu'on ne sache pas encore véritablement faire quoi que ce soit qui ressemble à une intelligence artificielle au sens où on peut l'entendre chez Asimov. Il y a de l'intelligence artificielle, mais elle est plus distribuée, locale que personnelle ou personnalisée comme on pouvait le faire chez Asimov. Est-ce que ça a un sens de parler est-ce que ça aurait un sens de parler d'inconscient d'un robot ou d'une machine, ou est-ce que les objets que tu manipules sont parfaitement déterministes, maîtrisés et programmés?
Alors, j'aimerais bien qu'ils soient parfaitement déterministes et parfaitement programmés, mais voilà, comme tous les programmes que vous utilisez dans tous vos appareils, il y a parfois des soucis, ça marche pas comme on voudrait. Mais dans le principe, oui, dans le principe, on programme pour que ça fasse ce qu'on a demandé et rien d'autre. Après, moi, avant l'inconscient, déjà, je pensais à la conscience des robots. La première chose, c'est, voilà, quand on pense aux lois de la robotique, le robot, il doit juger, est-ce que ce que je fais, ça va faire du bien ou du mal à l'être humain? Est-ce que ça va... Et pour ça, ça veut dire que quand on donne un ordre au robot, il doit, en conscience, l'évaluer et dire, est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que ça, c'est pas bien? Déjà, rien que ça... C'est très très compliqué. Déjà pour un être humain, quand on lui demande de faire une tâche, c'est parfois difficile d'évaluer si ce qu'on fait va faire ou non du mal à quelqu'un. Parfois on fait du mal pour un bien, c'est souvent ça que font les robots d'Asimov. Et donc, déjà rien que le niveau de la conscience, et il y avait un chercheur français qui avait commencé à inventer une espèce de conscience, donc un programme qui tournait au-dessus des autres programmes du robot pour que le robot juge lui-même de ce qu'on lui demandait de faire. Alors ça, voilà, ça commence à c'est très intéressant d'un point de vue théorique. En revanche, d'un point de vue pratique, voilà, le robot ne devient plus vraiment un outil puisqu'on lui demande de faire quelque chose et le robot va dire, ouf, je n'ai pas vraiment envie, tu sais, non, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Donc c'est le début de la fin, quoi. Si on commence à dire au robot, c'est toi qui choisis si ce que je te demande c'est bien ou pas, on déresponsabilise complètement l'être humain. Et puis voilà, et donc là on va sans doute vers des ennuis. Alors après, l'étape d'après, comment on coderait un inconscient dans un robot? Est-ce que ça pourrait être... Alors, ce qu'on aime bien faire, nous, en robotique, c'est de transcrire tous ces mots qui sont très, très humains et biologiques en des termes techniques. Par exemple, le sentiment d'un robot, une émotion d'un robot, c'est que son CPU ne chauffe pas trop. C'est que, voilà, et donc, est-ce que son inconscient, ça pourrait pas être... voilà, il y a sa mémoire qui se remplit trop et du coup, il va oublier certaines choses qu'il aura vécues, ou alors au contraire, il va faire remonter dans sa mémoire des choses qui devraient être beaucoup plus négligées. Donc pour moi, ça serait plus de l'ordre du bug, en fait, cet inconscient. Et peut-être c'est ça d'ailleurs, peut-être que notre inconscient c'est un gros bug au fond de notre cerveau, je ne sais pas.
Asimov ne donne pas du tout de détails techniques, un auteur comme Heinlein en donne un peu plus et joue souvent avec l'idée, par exemple dans Révolte sur la Lune, qu'à partir du moment où une machine atteint un niveau de complexité, par exemple un nombre de transistors comparable à la complexité du cerveau humain, l'analogie qu'il va donner c'est un nombre de transistors ou un nombre de processeurs comparable au nombre de neurones du cerveau humain, apparaît ou d'abord on n'est plus capable de prévoir complètement parce qu'on est même si on est déterministe, on ne sait plus faire les calculs, on ne sait plus prévoir exactement ce que va donner une configuration donnée, et d'autre part on n'a pas d'idée claire de ce qui fait la conscience humaine et pourquoi pas pourquoi les mêmes causes ne pourraient-elles pas produire les mêmes effets dans les machines. Est-ce que ça te semble une thématique purement imaginaire, ou est-ce qu'il peut y avoir une base technique derrière? Et d'autre part, est-ce qu'on se rapproche aujourd'hui de ce genre de limite? Est-ce que la complexité des robots ou des cerveaux électroniques, si on peut les appeler comme ça, se rapproche à quelques ordres de grandeur de celle des cerveaux humains?
C'est très difficile à dire. D'abord, il y a eu Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs. Après, il y a eu... un robot qui a gagné au jeu, Watson, qui a gagné un jeu... il a battu des êtres humains sur des jeux qui faisaient appel à de la culture. Et puis là, il y a récemment un bruit comme quoi un robot aurait passé le test de Turing. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là. Donc on discute avec un robot et en fait, il est impossible de distinguer si on parle avec un robot ou pas. Tout ça, pour moi, c'est de la quantité de calcul, en fait. Je pense qu'il manquera toujours une différence de nature dans ce qu'on arrivera à atteindre. Après, il y a une question de conviction profonde, pour pas dire de foi. Moi, je pense pas qu'un cerveau humain, ça ne soit que du calcul. Quoi. Je crois qu'il y a vraiment autre chose, un souffle supplémentaire. Qui fait que on sort du calcul. Ça veut dire qu'on a des intuitions qui viennent d'autre chose que du calcul, que des heuristiques. une possibilité de créer à partir de ce qu'on apprend, même si les robots apprennent de plus en plus. Voilà, je ne crois pas que la quantité de puissance de calcul arrive à la conscience et à tout ce qu'un cerveau humain est possible. Je pense que ce n'est pas juste une question de quantité. Évidemment, il calculera plus vite que nous, il projettera des choses beaucoup plus loin que nous, mais ça ne sera jamais que du calcul et sans cette créativité, ces dysfonctionnements qui nous arrivent à nous. Je pense vraiment que c'est une nature différente.
Philippe, est-ce que c'est aussi ce que tu avais en tête quand tu parlais d'inconscient robotique ?
Non, pas du tout, parce que, bon, reprenant un peu ce que disait Laurent tout à l'heure, je pense que l'auteur de science-fiction peut se permettre de mettre sous le tapis quelques vérités scientifiques absolument incontournables. Et donc, la grande différence des robots de Lothar Blues, c'est que ce sont des robots qui ont une intelligence biotique, c'est-à-dire c'est un mélange de... L'informatique passe par un système de cellules, et non plus, c'est plus un système de processeurs. Donc c'est complètement différent. C'est à partir de là, justement, qu'ils peuvent développer une mémoire virtuelle, et c'est cette espèce de mémoire virtuelle qui développe et qui revient en eux, qui petit à petit va leur faire déclencher cet inconscient qui va absolument changer les données du problème. Je crois que l'avenir du robot, ça n'est quand même pas, enfin, dans mon esprit, cette espèce de boîte en fer blanc, de boue qui marche avec des pas saccadés. C'est, à mon avis, pour un auteur de science-fiction, on ne peut pas imaginer, à l'époque d'Asimov, c'est tout à fait normal de l'imaginer de ce point de vue. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut plus l'imaginer comme ça, puisque finalement, le robot tel qu'on peut l'imaginer, il sert surtout dans l'industrie, il n'a pas du tout de forme humaine, il a une utilité pour la production, et finalement, il n'a pas tellement besoin de ressembler à un être humain, puisqu'il peut exécuter les quantités de tâches que nous ne pouvons pas exécuter aussi bien que lui, avec une précision encore plus grande. Donc c'est pour ça que, dans mon esprit, ces robots de l'avenir... Donc c'est pour ça que je mélange tout ça un peu cyborg, android, robot. Et c'est tout à fait différent comme concept. C'est un concept de biotique, c'est-à-dire d'intelligence artificielle à partir de cellules qui fonctionnent un peu comme des microprocesseurs, mais qui échangent des informations en permanence et donc avec une rapidité bien supérieure à celle de l'être humain. Ce qui passe, c'est qu'ils ont quand même été programmés un peu comme ceux d'Asimov. En particulier, le héros de mon roman, qui s'appelle Lothar, puis en hommage à Mandrake, puisque c'était l'ami de Mandrake. Et donc, ce robot Lothar est un robot qui a éduqué mon personnage principal. Puisque ça a été, et finalement, un jour, une fois que le personnage principal a eu la capacité de se débrouiller dans la société... On a mis ce robot au rencard et il était dans un garde-meuble, enfin un garde-robot. Et donc il va le retrouver. Et petit à petit, c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est les rapports qui vont s'établir entre ce robot qu'il va réveiller et qui va réveiller chez mon personnage principal des souvenirs enfouis de leur rapport lorsqu'il l'a appris, lorsque ce robot, Lothar, lui a appris la vie. Et voilà ce qui change complètement dans les données du problème. Sauf que ça n'est pas du tout un être humain, ça n'est pas un extraterrestre, c'est véritablement une créature artificielle qui a été programmée et donc à partir de laquelle on peut quand même espérer obtenir des résultats selon les ordres qu'on lui donne, mais en même temps qui peut développer des particularités qui font que entre l'homme et le robot peuvent se produire, c'est un peu le thème de mon roman, des rapports qui sont des rapports pratiquement d'égal à égal sans que l'un soit perturbé par l'autre.
On parlait de l'intelligence, l'intelligence de morale, des grandes questions métaphysiques et éthiques. Rodolphe parlait de Deep Blue qui joue aux échecs et d'intelligence prestigieuse. Anthony, est-ce qu'il y a aussi une intelligence des petites tâches chez Asimov ? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux chez de l'utilisation des robots ou de l'intelligence des robots que ces grandes questions auxquelles qu'on est tenté d'associer systématiquement à l'intelligence formelle ?
Alors, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut évacuer la question de l'intelligence artificielle chez les robots, puisqu'au fond on a justement, on ne peut pas coder l'inconscient, enfin ça va être très compliqué de créer une intelligence artificielle. Mais je pense que le problème de l'acceptation des robots dans des petites tâches... Alors, j'ai vu que dans l'intitulé de la table ronde, il y avait le problème de les robots comme accompagnement, comme robots d'accompagnement et de soins, par exemple, hein, imaginons dans les homes pour personnes âgées, là, on pourra imaginer qu'effectivement, le robot puisse avoir une réelle utilité sociale, c'est-à-dire pouvoir décharger les personnes qui travaillent dans ces établissements pour personnes âgées d'un certain nombre de tâches qui peuvent être un peu fastidieuses. Et là, peut-être qu'un jour, on mettra justement au point, on utilisera peut-être Roméo ou d'autres, pour remplacer ces tâches-là. Et là, se posera tout de même les problèmes d'acceptation sociale tels que les a déjà montrés Asimov au début. C'est-à-dire, alors, par exemple, soit ces robots accompliront un certain nombre de tâches fastidieuses qu'accomplissaient avant les personnes qui s'occupaient de ça, les assistantes en soins et santé communautaires, c'est comme ça qu'on les appelle en Suisse, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en France, je ne sais pas quel est intitulé de ce métier. Et dans ce cas-là, est-ce que ces robots seront réservés aux établissements pour, personnes âgées pauvres, ou est-ce que ces robots rendront des services que ne peuvent pas rendre des humains, et dans ce cas-là, peut-être qu'ils seront réservés, ils seront plus chers, et peut-être qu'ils seront réservés à des établissements de personnes âgées plutôt riches, qui ont plutôt les moyens de se payer des robots qui pourront faire ces tâches. Voilà. Et donc, il y aura peut-être effectivement un problème par rapport à l'acceptation sociale. Parce que je note quand même que dans les premières nouvelles sur les robots d'Asimov, ces robots ont été bannis de la Terre. C'est-à-dire qu'ils sont soit utilisés dans l'exploitation minière des astéroïdes, de Vénus, de Mercure, enfin, etc. Soit ils sont effectivement dans les mondes spatiens, plus tard, comme ça, où il y a très peu d'êtres humains. Mais en tout cas, les êtres humains ne veulent pas d'eux sur la planète Terre où il y a trop de monde. Parce que justement, il y a ce problème de supériorité, infériorité, enfin ce problème de complexe par rapport aux robots. Donc on pourra retrouver une problématique telle quelle le jour où justement ces robots remplaceront des êtres humains pour ces tâches fastidieuses dans ces établissements de soins pour personnes âgées ou pour handicapés ou autres. Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que ce sera réservé à certains types d'établissements? En tout cas, il y aura un problème d'acceptation sociale. Voilà, ça, à mon avis, c'est un problème qui se posera.
Juste dire un tout petit mot là-dessus, c'est que aujourd'hui, dans les maisons pour personnes âgées, les robots ils peuvent pas remplacer parce qu'ils sont pas au niveau d'une part. Et en plus, on a un mal fou à trouver du personnel pour s'occuper des personnes âgées. Et dans les hôpitaux, et encore plus à la maison. Donc je pense que ce souci-là n'est malheureusement pas vraiment un risque parce qu'on manque de bras. On manque de bras pour faire ce boulot-là. Et donc, et on voit aussi bien les médecins, les aides-soignants, les accompagnants des personnes âgées. Elles préféraient évidemment avoir une infirmière ou un bel infirmier pour s'occuper d'eux, mais ils disent, tant qu'à faire, on préfère un robot que rien. Voilà, donc je crois que ce problème d'acceptabilité, ça va changer petit à petit, parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait, malheureusement.
Il y a eu une expérience qui vient d'être menée à bien il y a très peu de temps, au Canada, où ils ont fait un robot autostoppeur. Et finalement, ils ont donc ce robot autostoppeur était destiné à faire le tour du Canada, et il vient de terminer le tour du Canada. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, à partir de ce travail qui a été fait réaliser, on a recueilli toutes les données que ce robot avait accumulées dans ses rapports avec les gens qui l'avaient pris en autostop. Finalement, comme il y a eu pas mal de publicité, et que finalement c'était plutôt amusant de recueillir un robot sur quelques centaines de kilomètres au Canada. Non, il n'a pas été volé, au contraire, les gens l'ont très bien accueilli, et actuellement ils sont en train de dépouiller justement les échanges qui ont eu lieu entre ce robot qui avait quand même un minimum de paroles et les gens qui l'avaient pris en route. Donc c'est un exemple du fait que le robot peut être convivial. D'ailleurs, dans le roman que j'ai écrit, Le Tar Blues, il y avait des robots acteurs, ça s'appelle des Matsushita, donc au nom du célèbre constructeur japonais. Et l'avantage des acteurs robots, c'est qu'ils peuvent prendre absolument toutes les formes, jouer tous les rôles, aussi bien féminins que masculins, avec une exactitude absolument mathématique par rapport au rôle qui leur a été donné. Donc je crois qu'on peut multiplier les rôles des robots très particuliers, aussi bien ceux qui, effectivement, lorsqu'on pourra exploiter Mars ou la Lune, seront évidemment les interlocuteurs, enfin plutôt les travailleurs absolument idéaux pour ce genre de travaux. Et on pourra aussi trouver des robots, aussi bien pour les personnes âgées, pour toutes les tâches qui sont extrêmement difficiles à accepter par l'être humain aujourd'hui.
Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, j'aimerais revenir un petit peu à Laurent, que je présentais tout à l'heure comme un auteur inconsommable. Mais tu es aussi, ou tu as été, un théoricien de la SF. Je crois que tu as préparé un doctorat sur les livres univers il y a quelques années. J'aimerais un regard un peu plus de théoricien de la SF sur la question que tu évoquais tout à l'heure de l'imaginaire. Tu nous disais que ce que faisaient les robots d'Asimov, c'était modifier l'imaginaire collectif sur les robots et sur l'intelligence. Est-ce que ça te paraît une fonction majeure de la SF ? Est-ce qu'on peut dire, selon toi, que la SF a influencé l'imaginaire scientifique et technique autant que la réalité ou l'imaginaire scientifique et technique a pu influencer les auteurs de SF ?
Oui. Moi, je pense qu'il y a un dialogue inconscient, pour le coup, qui s'est instauré depuis le départ. Hein. Je pense que ça s'est instauré depuis le départ. D'ailleurs, sur les robots, je pense que sur la robotique et sur les objets connectés, je pense que à l'heure actuelle, ce qui s'annonce au niveau de l'industrie, c'est une sorte de mélange entre un futur à la Asimov et un futur à la Dick, c'est-à-dire des objets intelligents qui forment un réseau et qui bug de temps en temps, effectivement. Et les problématiques, ça va être des problématiques de réseau, en fait. De réseaux qui bug et puisque ça nous enveloppe d'une sorte de nouvelle réalité qui est la réalité des objets qui vont interagir avec nous, des interfaces, des smartphones qui vont commencer à nous prendre le pouls, à nous conseiller sur notre santé, sur notre façon de vivre, finalement. Et ça, je pense qu'on va en tout cas, l'industrie nous amène vers cet état sociétal qui a été anticipé par certains auteurs. Ouais. Donc oui, je pense que c'est un dialogue, un dialogue. C'est, disons, des champs imaginaires qui se déploient et il y a des carrefours qui se font, qui ont lieu et oui, ça l'un influence l'autre et réciproquement. Oui.
On a le temps donc un peu pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un veut interroger nos panélistes ? Oui.
Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce qui avait été mentionné tout à l'heure sur la conscience éventuellement des robots et la responsabilité des humains. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais il y a quelques jours, dans le Courrier international, il y avait un article concernant l'armée norvégienne qui travaille actuellement, qui a financé à hauteur de 300 millions d'euros le développement de missiles partiellement autonomes, donc qui seront fixés sur des avions de combat, et les missiles pourront prendre la décision eux-mêmes, après avoir identifié une cible, de tuer ou pas, sans intervention humaine. Et donc je voulais savoir si vous aviez entendu parler de ça, et quelle était votre opinion justement sur cette pseudo-autonomie et la capacité de tuer de robots donc sans ou de missiles et la responsabilité humaine qui est derrière. Merci.
J'ai pas vraiment d'avis dessus, mais en tout cas on est dans une logique de déresponsabilisation de l'être humain. On l'a vu avec les drones en fait. Ça a commencé en fait, c'est pas nouveau. Alors c'est un pas supplémentaire en fait, clairement hein, qui est franchi. Mais on avait déjà ça avec les drones. On s'est aperçu que la guerre par drone interposé était beaucoup plus meurtrière qu'avec des soldats qui tirent, parce que l'armée américaine qui a fait des stats et elle s'est aperçue que il y avait beaucoup de cartouches qui étaient tirées à côté des combattants, quand un soldat tirait, je crois que c'était 6 cartouches sur 10 étaient tirées volontairement à côté, en fait. Et donc, parce que le soldat était mis face à sa conscience et une bonne partie d'entre eux répugnaient à éliminer quelqu'un qui finalement... dans le civil, lui avait rien fait, finalement. Et donc, tirer sur ordre, ça pose réellement un cas de conscience, pour paraphraser justement un titre de SF, qui traite de ça, d'ailleurs. Donc, clairement, quelqu'un qui est derrière un écran, à plusieurs milliers de kilomètres de là, il va avoir beaucoup plus tendance à appuyer sur le bouton de tir. Enfin, il va pouvoir effectuer le geste de mort beaucoup plus facilement quand il est très loin, à travers un écran, voilà, où le combattant n'est plus un combattant, ou le civil hein, d'ailleurs, n'est plus un être humain, mais une toute petite silhouette avec un traitement d'image qui le déshumanise en plus de ça. Donc, tout ça, ça a été effectivement théorisé hein, par l'armée américaine. Et le fait de développer des missiles qui puissent prendre la décision, c'est tout à fait dans cette logique-là, finalement. Mais c'est aussi l'évolution de nos sociétés occidentales où on ne supporte plus d'avoir des soldats qui tombent et où une guerre meurtrière, c'est une guerre où il y a 50 morts du côté de l'armée. Donc, on essaie de minimiser, c'est une façon aussi de minimiser ses propres pertes. Voilà, c'est la guerre moderne. Voilà, qui a été inauguré en 82 avec la première guerre du Liban en fait.
Je connais pas le projet en question. Ah pardon. Juste ce que je voudrais dire, c'est quand il dit que le robot prend une décision, c'est pas en âme et conscience justement. On lui a donné des règles en disant ça, il faut aller dessus, ça, il faut pas. Voilà, c'est des règles plus qu'une décision. Donc il obéit à des règles. Voilà. Et si il tue des civils, c'est parce que les règles qu'on lui a données étaient mauvaises. Donc, c'est pas le robot qui décide, c'est on lui donne des ordres avec des règles. Si les règles sont pas bonnes, le robot il va faire une bêtise, mais c'est pas le robot qui prend la décision.
Et pour revenir sur l'analyse de Laurent, qui pose ces règles ? En particulier, est-ce que l'ingénieur qui va développer ces règles se voit de près ou de loin comme un militaire, ou est-ce qu'il est tellement éloigné de ce processus, totalement décalé.
En revanche, je suis d'accord. C'est vrai qu'après, le gars qui écrit la règle, alors normalement, l'ingénieur, lui, il va donner les outils pour écrire des règles, mais il ne va pas écrire les règles lui-même. Et après, c'est le militaire qui dira si ça a une barbe, un turban et que c'est menaçant avec un fusil, je vais dessus, et puis sinon, je tombe à côté. Voilà, donc c'est ça. Et donc, l'ingénieur se dira toujours, moi je donne des outils, après vous en faites ce que je veux, ce que vous voulez. Donc c'est un moyen de se laver les mains, encore une fois, de se déresponsabiliser. Et en même temps, si le militaire commande à l'ingénieur un missile pour tuer des gens, l'ingénieur il peut pas dire, moi je vais faire en sorte que mon missile tue personne. Donc c'est vraiment difficile. Mais voilà, donc je pense, juste la seule chose qu'on peut dire, le robot il décide pas, c'est l'homme qui décide et le robot il exécute. Pour que, encore une fois, on déresponsabilise pas trop les gens, les robots ils décident pas.
Philippe, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, non, simplement, j'ai effectivement vu cette information l'autre jour. Mais ce sont des drones, en réalité. Et ces drones sont programmés au nom d'une certaine localisation de certains endroits. Et donc, on les envoie sur place et ils déclenchent quelque chose quand on leur a donné les instructions de départ. Mais donc, c'est toujours la façon dont les drones deviennent un système exponentiel de la guerre internationale, et qui est quand même quelque chose qui devient de plus en plus grave, à mon avis, parce que après, il n'y aura plus que des armées aussi de robots les uns contre les autres. Finalement, ça ne servira strictement à rien pour personne.
Une autre question, premier rang.
Vous avez plusieurs fois dit qu'il ne serait pas possible de reproduire le cerveau humain. Mais le cerveau humain, il est reproduit en permanence à chaque fois qu'il y a une naissance, il est reconstruit, et finalement, il est bien construit de quelque chose. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible, même si actuellement, c'est hors de nos compétences techniques, de reproduire ce qui existe déjà à l'état naturel.
Rodolphe, quelle est la nature de ce souffle que tu évoquais ?
Voilà. Alors là, je conçois qu'on ait cette position. Et je pense que c'est la position de beaucoup de gens que je respecte. Voilà. Moi, je pense qu'on est autre chose qu'une mécanique. Voilà. Mais après, on verra à la fin qui a raison. Mais c'est juste une question de conviction, de foi, pour ne pas le dire, qu'on est autre chose que juste une accumulation de cellules, de machines, de transistors, mais qu'on a un souffle en plus qui nous différencie des animaux et qui nous différencie des objets. Mais en effet, je suis scientifique et j'ai au moins des convictions qui dépassent les démonstrations mathématiques.
Je
je peux ajouter quelque chose. En fait, c'est, il y a aussi dans la SF, et ça peut être aussi une voie purement scientifique, qui est que si on développe une intelligence machinique, pourquoi elle devrait ressembler au cerveau humain ? Il est peut-être plus efficace de chercher autre chose, qui soit plus adaptée, une forme d'intelligence justement plus adaptée à des organismes machiniques, justement artificiels. Et donc, on peut. La SF, elle a tenté ça. Je pense au manteau de Ian Banks, qui sont des intelligences artificielles qui s'incarnent. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est une voie aussi, parce qu'on a tendance à imaginer des robots comme des êtres, comme des créatures. On peut maintenant qu'on sait que finalement un robot c'est quoi ? C'est une IA dans un corps, c'est une IA incorporée. Pourquoi pas imaginer une IA qui puisse s'incorporer dans plein de robots en même temps ? Et donc les manteaux c'est ça, c'est des intelligences qui sont capables de s'incarner dans des vaisseaux gigantesques, dans une myriade de drones simultanément, d'avoir des conversations avec plusieurs milliers de personnes en même temps. Donc une sorte de multiconscience. On peut imaginer beaucoup de choses, pas forcément se limiter à un modèle initial qui est nous, alors qui est certes notre seul point de repère, mais voilà, après on peut pour le coup faire preuve d'imagination.
Ça en revanche, voilà, je veux bien croire que la démultiplication de tas d'ordinateurs qui s'échangent des données, qui traitent des données que nous on est incapables, vont faire que les robots, les machines pourront voir des choses, comprendre des choses que nous ne comprenons pas, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Donc ça je veux bien le croire. Après, il y a quand même une espèce de soupçon que je ne sais pas d'où il sortirait.
En fait, l'idée aussi d'avoir cette reproduction du cerveau humain, c'est aussi pour comprendre, et puis une fois qu'on a compris, vérifier que ça marche et que ce qu'on a compris à propos du cerveau, en étant capable de le recréer, on vérifie qu'on a une compréhension. Après, d'un point de vue utile, c'est sûr qu'une IA plus globale serait intéressante, mais pour ce qui est de la compréhension du fonctionnement du cerveau humain, le fait de pouvoir le recréer et de comprendre comment il fonctionne, ce serait vraiment de pouvoir se dire que maintenant, c'est bon, la compréhension, on sait comment fonctionne le cerveau.
Ah oui, dans un cas de simulation, oui. D'accord, oui, pour simuler le cerveau humain, oui, on peut se servir, oui, les machines peuvent être des IA peuvent être des sortes d'espaces virtuels dans lesquels on peut simuler le fonctionnement du cerveau humain. Ouais, tout à fait.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question assez simple. Est-ce que d'une certaine manière, les robots en science-fiction ne nous accommodent pas, ne nous préparent-ils pas, nous ou nos enfants, au dialogue avec les machines ? Parce que de fait, aujourd'hui, le paper. Avec SoftBank, il va être censé dialoguer avec nous. Il va apprendre dans le dialogue avec les humains. Et il y a peut-être aussi un autre type de responsabilité qui va consister à bien prendre conscience qu'il va falloir dialoguer en permanence avec les machines. Moi, j'ai en tête ce que m'avait dit un designer de l'Internet des objets qui me disait « Notre gros problème qu'on va devoir résoudre, c'est d'apprendre la politesse aux machines. » Donc, est-ce que, d'une certaine manière, ce dialogue-là n'est pas aujourd'hui absolument indispensable à susciter ? Voilà. Et ce qui voudrait dire qu'on pourrait presque considérer le robot comme un humain comme les autres, même si on sait qu'il ne l'est pas.
Je ne suis pas bien sûr de comprendre la question. Donc recadrez-moi si je réponds à côté. Le dialogue, c'est en effet, chez Aldébaran, c'est essentiel pour créer du lien, une acceptabilité, créer un objet social qui sera à côté de nous et qu'on utilisera volontiers. La souris, le clavier, passer par des cases à remplir, voilà, ce qui était notre façon de communiquer avec les objets, doit disparaître pour le dialogue. Et donc, du coup, s'élever à des niveaux d'abstraction qui vont être de plus en plus compliqués pour la machine. Donc là, on se rapproche de ce qu'est de l'intelligence artificielle. Nous, on est sur un projet européen où le robot, il va aller lire des recettes de cuisine pour faire à manger. Donc vous dites, je veux des crêpes. Et donc, première ligne de la recette, battre des œufs. Voilà. Et donc le robot, quand il voit battre des œufs, il ne faut pas qu'il donne des coups de poing sur l'œuf, quoi. Il faut qu'il comprenne tout ce qui se cache derrière. Et donc ça veut dire aller chercher un fouet, mais pas un fouet schlac, mais un fouet. Voilà. Et donc on se rend compte que, et pour moi elle est là l'intelligence artificielle, c'est que les machines arrivent à comprendre tout ce qui se cache derrière notre façon de parler, et nous on ne se rend pas compte. Quand on passe à une langue étrangère, parfois ça le fait, mais voilà, de découvrir toute la sémantique, tout ce qui se cache derrière le contexte voilà, qui se cache derrière les mots qu'on utilise. Et en effet, ce dialogue-là, c'est là que les machines devront faciles à être à utiliser. C'est quand ils comprendront le non-dit de ce qu'on fait, quand ils comprendront les émotions qui nous animent. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la détection des émotions, le paraverbal, comprendre la gestuelle d'une personne qui parle à un robot, pour savoir s'il lui parle comme ça. Allez, va te faire voir. Est-ce qu'il est sérieux? Donc le robot doit aller à la fenêtre pour faire ça, ou est-ce que ça veut dire laisse-moi tranquille? Voilà. Donc c'est tout ça qui va faire que l'échange avec les machines va être de plus en plus facile et vont en faire des vrais objets sociaux.
D'accord. Mais et dans l'autre sens, parce qu'il y a l'autre sens aussi. Nous, en tant qu'individus, en dialogue.
Alors le dialogue, c'est que nous, est-ce que nous on comprendra ce que veulent les robots?
Et surtout, on va devoir dialoguer et les considérer comme des interlocuteurs, ce qui est nouveau, en fait, notamment les machines, parce que sinon, et si les ingénieurs n'introduisent pas cette notion, cet ingénieur, il me parlait de Dick, en fait, et de la porte de Ubik. Il me disait, ben voilà, ça montre bien qu'il y a un souci que quand Joe Chip n'arrive pas à entrer dans son CONAPT, il y a un vrai souci. Il menace d'un procès, et donc là, il est face à une mécanique. Et là, il y a un enjeu qui est celui de l'échange des deux côtés, du vôtre, du côté du robot, mais du côté de l'humain aussi.
Donc, c'est-à-dire, en fait, alors ça aussi, c'était des recherches qui étaient en cours sur on peut demander au robot pourquoi il ne veut pas faire quelque chose.
Il faut apprendre à dialoguer, à considérer le robot ou la machine comme un interlocuteur.
Voilà. Mais absolument, voilà. Mais bon, il me semblait que c'était un interlocuteur dans le sens qu'il a le droit d'avoir sa propre réflexion et son propre cheminement.
Qu'il ne faut pas le sous-estimer, y compris du côté du mal qu'il peut nous faire, ou du bien.
Oui, bah écoutez, j'ai un peu de mal à avoir la nuance de ce que vous soulevez. Il faudrait que je relise ce qu'a dit, probablement.
Philippe. Oui, je voudrais quand même aller dans un sens un peu pessimiste. Parce que quand même, si vous représentez aujourd'hui la difficulté qu'il peut y avoir pour un simple écrivain de se référer à un correcteur de texte, la différence qu'il peut y avoir entre ce que vous donne le correcteur de texte qui fait un nombre d'erreurs absolument incommensurable, alors que les ingénieurs se penchent dessus depuis 10 ans, alors qu'ils ne font absolument aucun progrès, n'arrivent pas à trouver ce qu'un complément est par rapport à un sujet, ce qu'un verbe... Bon, déjà, là, vous avez une impossibilité majeure qui se produit actuellement. Il va falloir vraiment un certain nombre d'années pour arriver à des traducteurs qui soient à peu près fiables. Et quand on pense aux traducteurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser les traducteurs qui sont sur le réseau, ou même chez Google, etc., on peut arriver à faire des phrases absolument extraordinaires. C'est totalement surréaliste. C'est-à-dire que vous donnez à votre traducteur une phrase en français. Donc moi, je connais mal l'anglais, donc je donne une phrase en français. J'ai un anglais qui me semble à peu près convenable. Et si jamais je prends la même phrase, une autre phrase similaire en anglais, je reçois un texte en français absolument ridicule et dérisoire. Donc, si vous voulez, le travail qu'il va y avoir à accomplir pour simplement, au niveau de la traduction et au niveau de la correction littéraire, d'arriver à des résultats véritablement intéressants, me semble vraiment à long terme, d'après ce que je peux voir.
Anthony. Il y a aussi un problème qui va se poser par rapport au lien social, c'est effectivement l'aspect politesse et autres, c'est qu'il y a du non-calcul aussi dans les rapports entre êtres humains, dans la politesse ou autre. Il y a des choses qui sont de l'ordre du don ou de la générosité ou de la gratuité, et c'est ça qui au fond donne du sens aux relations aux relations sociales. Et ça, ça va être très compliqué à programmer chez un robot. Au fond, il aura une réponse qui sera considérée comme polie ou d'après une norme une norme commune, mais il n'y aura pas ces petites variations qui font la différence entre êtres humains, ou cette différence avec la petite dose de générosité ou de dons ou de petites choses gratuites qu'on apporte en plus. Donc je pense que pour ça, voilà, c'est ça qui risque de manquer effectivement par rapport à cette convivialité.
Laurent, est-ce que la possibilité d'un protocole ou d'une politesse envers des machines ou des robots fait partie du type d'imaginaire technique que la science-fiction est capable d'influencer ?
Déjà, la SF, la personne dans le public qui disait que la SF nous conditionnait aussi à entamer le dialogue avec les machines, je pense qu'il y a de ça quand même dans la SF. Quand on voit comment Hal 9000 s'adresse à Dave, c'est délicieusement british, quoi. Donc clairement, et ça, effectivement, je vois pas en quoi ça pourrait pas être programmé finalement. Enfin, qu'il pourrait pas y avoir un processus d'apprentissage de justement du consommateur par la machine pour mieux se faire, de captation de sa culture finalement, enfin d'éléments culturels, que ce soit la politesse ou n'importe quoi d'autre, pour justement pouvoir passer ce test de Turing finalement, puisque finalement on en revient à ça. Et il y a un bouquin qui était très très bien là-dessus. Enfin, pour moi, c'est un des modèles en SF. Ça s'appelait le problème de Turing de Harry Harrison. Qui traitait justement. Enfin, on est en plein. Enfin, c'est le sujet du roman. Un bouquin qui date du début des années 90.
Très rapidement, je crois qu'il y avait une dernière question, monsieur. Bon, allez-y sans micro, sinon on n'a plus le temps. Non, mais je crois que malheureusement, effectivement, on ne vous entend pas bien et la montée de la musique signifie, j'imagine, qu'il faut rendre la salle. Donc, avec mes excuses, on va...
Juste un mot par-dessus la musique. De ce que j'ai entendu, monsieur dit que le robot, le cerveau se construit au fur et à mesure de ce qu'on vit et que si nous, on plaque sur un cerveau notre fonction de raisonner aujourd'hui, forcément, le cerveau artificiel qu'on fera raisonnera comme un être humain. Et c'est pour ça qu'il y a de la recherche fondamentale qui se fait. On a un labo chez Aldébaran où le robot, on va quasiment lui apprendre que à apprendre. Voilà, on lui apprend juste ça, et c'est lui qui voit que quand il bouge un bout, eh ben, il se passe ça, et il va aussi remarquer que quand il y a tel pixel dans son écran, les gens disent beaucoup rouge, et donc voilà. Et petit à petit, il va apprendre, et donc là, on va faire une espèce d'apprentissage non aidé, non assisté, et on verra bien où ça nous mène. Et donc là, on arrivera peut-être en effet à des intelligences qui sont assez différentes de la façon dont nous, on réagit. Et d'autres disent, ben non, on va arriver à la même chose que ce que nous, on fait. Il va être dans le même contexte que nous. Et donc, le robot, le cerveau de robot va fonctionner comme le nôtre. C'est une expérience théorique assez intéressante.
Et ce sera le mot de la fin. Donc, merci à tous d'être venus. Merci à nos panélistes. Et puis, bonne fin de festival. Merci.